Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Moujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à la fréquence de la paix qui vous propose ces nouveaux numéros des paroles aux auditeurs. La ville-province de Kinshasa connaît, comme la plupart des provinces de la RDC, des problèmes de mobilisation de recettes afin d'avoir un budget conséquent pour faire face aux différents défis, notamment la gestion des immondices, la dégradation de la voirie urbaine, la lutte contre la criminalité urbaine, l'approvisionnement en denrées alimentaires, des bases, ainsi que les questions des transports en commun. Pour faire face à cela, certains observateurs proposent le renforcement des mécanismes d'élaboration des budgets en prenant en compte la participation des municipalités. Selon vous, que faudra-t-il pour arriver à doter les provinces des budgets capables d'assurer le développement à la base? Merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. On se retrouve sur la page Facebook des paroles aux auditeurs pour le débat autour de cette question. Jean-Noël Mokondo assure la mise en œuvre de ce magazine, Kepiro et la Meji. J'ai le réel plaisir de vous présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à toutes et à tous.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport à
ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos interviews.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
Et nous sommes ensemble pour près de 55 minutes d'échange autour de cette question des budgets. Quel est le rôle des députés provinciaux dans l'élaboration de ces budgets et comment on arrive vraiment à avoir des budgets qui permettent à la province, ville de Kinshasa et d'autres provinces de faire face aux problèmes de développement. Et pour en parler, nous recevons dans ce studio Monsieur Mwamba Mushimpaku Godefoy, premier vice-président national de l'ANAFEC. L'ANAFEC qui est l'Alliance nationaliste de fédéralistes Kinguiste, hein, un parti membre de l'Union Sacrée, Monsieur Mwamba Mushimpaku Godefoy. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les spectateurs à travers le monde.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la veille des élections. C'est le moment où les Congolais vont encore renouveler leur confiance dans les députés. Voilà. Et est-ce que votre parti est vraiment rangé pour pouvoir affronter les échéances qui arrivent avant qu'on puisse aborder la question du jour?
Nous avons fait une grande assemblée générale le samedi passé où nous avons passé les troupes en revue. Les 400 communes politiques qui constituent la ville de Kinshasa sont déjà dotées des généraux et nous avons appelé nos généraux à se mettre en rang de bataille pour que le chef de l'État soit rassuré que l'ANAFEC va devoir tout faire pour lui donner le deuxième mandat et aussi va contribuer avec un nombre significatif de députés au niveau national, des députés au niveau provincial et pourquoi pas les conseillers municipaux pour lui permettre de pouvoir implémenter non seulement le projet des 145 territoires, mais aussi les 31 villes que constituent les 31 communes que constituent les 31 villes de la République démocratique du Congo et aussi soient prises en compte à travers les communes.
Et quand on parle des communes, on parle des villes, nous revenons à cette question qui on voit la ville province de Kinshasa où nous vivons, qui a beaucoup de difficultés aujourd'hui pour faire face à certains problèmes, l'insalubrité, les problèmes de voirie. Et si on écoute les uns et les autres, le problème se trouve au niveau de recettes, de revenus qui doivent être affectés à ça. Or, quand on voit revenus, on voit l'élaboration de budget. Alors, à quel niveau se trouve exactement le problème dans le rôle des uns et des autres pour doter des provinces comme Kinshasa, par exemple, d'un budget qui puisse lui permettre de faire face à ces genres de problèmes?
Je crois pour ma part, le problème se situe au niveau du Parlement. Parce que l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Un autre problème se situe aussi au niveau du fait que les gens passent très vite à la recherche du progrès social sans pouvoir parler de l'économie. Avant d'arriver au progrès social, il faut qu'il y ait un essor économique. Mais cet essor économique est là des repères au niveau de la Constitution, au niveau des lois de la République. C'est pourquoi je voudrais en profiter pour cette première intervention, ne fût-ce que rappeler le cadre juridique dans lequel évolue le pays, et nous verrons si notre budget correspond aux besoins et s'il correspond même au texte. Parce que, en fin de compte, on comprendrait que notre budget est non seulement inconstitutionnel, mais il est aussi illégal.
Et pourquoi il est inconstitutionnel et illégal?
D'abord, je vais vous lire l'article 174 de notre Constitution. Il dit ceci, il ne peut être établi d'impôt que par la loi. Ça, c'est évident. Et cet article dit « La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en République démocratique du Congo. » Il y a des gens qui vivent en République démocratique du Congo qui ont peut-être aujourd'hui 60 ans qui n'ont jamais contribué aux charges publiques. Ça, c'est un problème. Comment on ne trouve pas de mécanisme, comment le Parlement ne trouve pas le mécanisme en tant qu'autorité budgétaire pour faire que tout celui qui vit en République démocratique du Congo puisse contribuer aux charges publiques. Ça, c'est la première chose. L'article qui est aussi fondamental, qui suit juste après, c'est l'article 175. Il vous dit, le budget en recettes et des dépenses de l'État, à savoir celui du pouvoir central, des provinces, est arrêté chaque année par une loi. La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40% et est retenue à la source. La loi fixe les nomenclatures des recettes locales et les modalités de leur perception. Ça, ce sont les principes fondamentaux qui sont placés dans la Constitution. Allons un peu dans la loi pour voir ce que dit la loi. Parce que la Constitution, elle est complétée par la loi ou elle est matérialisée par la loi. Nous prenons la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. C'est sur cette loi-là que se base la construction de notre budget. Et il dit ceci, nous exploitons le chapitre 2, l'article 6. C'est l'unicité du budget. La loi dit ceci, le pouvoir central, la province ou l'entité territoriale décentralisée présente chacun en ce qui le concerne, et dans un document unique, toutes les ressources et toutes les charges afférentes à une année. Le budget de l'entité territoriale décentralisée est intégré en recettes et en dépenses dans le budget de la province pour constituer le budget provincial. Les budgets des provinces sont consolidés avec les budgets du pouvoir central pour constituer le budget de l'État. Est-ce que le budget que nous avons, même aujourd'hui, c'est depuis plus de 10 ans qu'on n'a pas de budget, que l'État congolais n'a pas de budget. Mais on a un budget d'un gouvernement central. D'ailleurs, basé sur les recettes des 60% et 40% qui sont des recettes nationales. Mais et les recettes provinciales? Et les recettes locales? Qu'en faisons-nous? Donc déjà, à ce niveau-là, sachez que la République démocratique du Congo fonctionne avec un budget inconstitutionnel et illégal. Inconstitutionnel dans la mesure où les Congolais ne contribuent pas aux charges publiques. Illégal parce que le budget qui est voté n'a jamais intégré les budgets des communes. En fait, parce que ce sont des budgets des communes qui prennent en charge les quartiers, les localités, les avenues et les rues mais dans lesquelles nous habitons.
Mais on n'a jamais eu les élections municipales, on ne les a jamais eues, les élections locales. Comment alors les communes aujourd'hui vont-ils... quel organe au niveau de la commune va élaborer un budget qui doit être intégré alors qu'on n'a jamais eu des élections ou on n'a pas des conseils municipaux?
Mais si nous n'avons pas un organe, est-ce que c'est de la faute de l'organe ou de la faute de nous, les dirigeants? Donc nous établissons nos faiblesses, nous le constatons. Mais par contre, je constate la volonté forte du chef de l'État. Deux actes que le chef de l'État a posés, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Dès la première année, il a demandé que le Parlement lui donne un budget de 20 milliards de dollars. Mais le Parlement a été incapable de comprendre que quand le chef de l'État parle du budget de l'État, ce n'est pas le budget du gouvernement central qui se base sur les 60% qui viennent au pouvoir central et les 40% qui restent au niveau des provinces. Non, quand le chef de l'État parle d'un budget de l'État, c'est le budget qui intègre les provinces. D'ailleurs, si vous suivez très bien, même maintenant, le budget de cette année n'a pas intégré les budgets des provinces. Et pourtant, quand vous prenez une province comme c'est Lualaba, elle peut arriver à 300 millions de budget au niveau local. Mm-hmm. Vous allez trouver, nous avons 26 provinces. Chaque province a son budget. Supposons que chaque province ait, par exemple, 100 millions de dollars de budget. Mais multiplié par 26, vous avez 2 milliards de dollars. Donc, à ces 14 milliards, nous pouvons déjà ajouter 2 milliards. Nous sommes à 16 milliards. Mmh. Il y a aussi ce qu'on appelle les taxes et les impôts qui sont locaux au niveau de la province et locaux au niveau des entités territoriales décentralisées. Et au niveau des entités territoriales décentralisées, je voudrais évoquer ici un impôt fondamental qui est exclusivement communal. C'est l'impôt minimum personnel.
Qui n'est pas perçu.
Pourquoi? C'est là l'incapacité. C'est là notre inconstitutionnalité et notre illégalité de notre budget. Et pourtant, le chef de l'État l'a demandé. Et mmh. le chef de l'État n'a pas seulement demandé cela. Le chef de l'État est allé plus loin, a proposé lui-même un projet de développement des 145 territoires. Donc, le chef de l'État comprenait déjà que pour prendre en charge les désidératas de notre population, mmh. il faut que les entités territoriales décentralisées, il faut que nos communes, parce que nous sommes dans la ville de Kinshasa évidemment, il faut que nos communes aient des budgets. Et pourtant, si nous regardons, je ne me rappelle pas de ma mémoire, depuis que peut-être le maréchal est parti ou avant qu'il ne soit parti, il n'y a jamais eu des budgets des communes. Des fois, c'est le gouverneur qui se lève le matin, il donne 20 000 dollars. Mm-hmm. C'est le gouverneur qui se réveille le matin, il donne ce qu'il veut. Mais si moi, je fais seulement un peu de calcul, mm-hmm. Je prends la commune de Lemba, dans laquelle moi j'habite. 800 millions d'habitants. Si nous disons que 30%, ou si nous disons 800 000 habitants. Mm-hmm. Si nous disons que 300 000 ne sont pas éligibles à l'impôt, ça veut dire ils ont plus de 65 ans ou alors ils ont moins de 18 ans, vous avez 500 000 habitants. Avec les 500 000, si seulement un citoyen donnait 5 dollars par an, nous avons 2 500 000 dollars. Et moi, dans mon projet de développement de la mm-hmm. ville de Kinshasa, je pense qu'avec 2 500 000 dollars à Lemba, nous aurons d'abord à construire une maison communale de Lemba digne de la commune de Lemba. Également à Limété, également Ngaba qu'on a mmh. délogé, parce que Ngaba n'avait pas de commune.
De maison communale,
ils habitaient
oui,
dans une maison qui n'était pas une maison, qui était une maison de privé. Ils ont été incapables de louer, on les a délogés. Limité aussi, parce que la commune, la maison communale de Limité, semble être une maison de quelqu'un, privé de quelqu'un qui a été arraché parce que on avait accusé le propriétaire d'avoir trempé dans un coup d'état. Donc, demain ou après-demain, nous sommes dans l'état de droit, on ouais. va les déguerpir. Donc, et pourtant, je prends Lemba, nous avons 14 quartiers et 2 camps militaires. Mais, avec 2 millions de dollars, mais nous allons doter la commune de Lemba, non seulement des maisons, des quartiers, parce qu'aujourd'hui, les chefs de quartier n'existent même pas. Nous allons doter les rues. Et je vous dis que si cette réflexion, elle est faite sur toute la ville de Kinshasa, ce sera un développement en cascade.
Voilà, merci. Voilà, merci pour cette introduction, cette première partie, mais c'est très très intéressant. Mais pourquoi on n'arrive pas à intégrer cette donne de l'impôt minimum
personnel,
ça serait une manière vraiment de pouvoir développer toutes ces communes qui ont des problèmes sérieux. Rappelons aussi que les sous-commissariats qui sont à côté des communes où n'ont pas de bâtiments, ils sont soit dans les tôles, dans des vieux containers, et qu'avec une telle conception, on peut y arriver. Alors après, on va voir pourquoi on n'arrive pas à mettre cela en œuvre. Le temps d'écouter les auditeurs, hein, ils sont nombreux vraiment à vouloir s'exprimer. Nous avons Franck qui nous appelle de Vienne autour de cette question. Dieudonné ici à Kinshasa et Mina Mwanda qui nous appelle de Bukavu. Commençons d'abord avec Franck qui est à Vienne. Bonjour, bienvenue. Quel est votre point de vue, Franck?
Nos cordiales salutations à vous tous au studio et aussi à tous les amis fidèles de la radio Okapi. Merci beaucoup pour la confiance. Oui, dans chaque société des hommes, il y a des séries de problèmes relatifs à leur réalité quotidienne. La manière de chercher des pistes de solutions à ces problèmes, les attitudes avec lesquelles certaines pistes de solutions doivent être envisagées, c'est aussi souvent le reflet de leur état d'esprit et aussi de la maturité avec laquelle et ils s'organisent pour vite s'en sortir. Puis, pour ce qui nous concerne en République démocratique du Congo, c'est parfois curieux et souvent drôle. Nos gouvernements se succèdent avec les différents régimes démocratiques depuis 2006, mais curieusement dans nos villes, dans nos cités et dans nos autres centres urbains, la plupart des structures et des infrastructures ne font que se détériorer, alors que nos compatriotes sont souvent contraints de payer des litanies de taxes, mais sans que la plupart d'entre eux ne sachent la réelle traçabilité de ce qu'ils payent comme taxes à l'État congolais. Et ce qui se passe à Kinshasa, comme dans la plupart de nos provinces de la République démocratique du Congo, c'est justement le reflet de la mentalité congolaise. Parce que chaque homme politique qui a une certaine parcelle de pouvoir cherche d'abord à s'enrichir plus que l'État congolais. Ainsi, ils sont souvent capables d'insérer des grilles de taxes qui ne profitent que à leurs ambitions ou à leurs poches. Nous ne pensons pas personnellement que la suggestion de proposer des renforcements des mécanismes d'élaboration des budgets en prenant en compte la participation des municipalités serait l'unique voie de sortie. La question, selon nous, est de savoir comment serait la gestion de ces fonds après ces renforcements. On risquerait de revenir à la même case du départ, car c'est comme si jusqu'ici, nous citoyens congolais n'avons jamais compris que la corruption, les détournements des taxes, les manques de loyauté dans la gestion des deniers publics sont des tares et de véritables freins du développement pour chaque peuple. Et si chaque homme politique vient d'abord pour se servir, dans tout ça, l'État gagne quoi? Et c'est ça le problème. Donc, il faut commencer par le changement de mentalité selon nous. Et pas seulement changer à renforcer ici, renforcer là-bas, mais avec quelle mentalité, avec quelle loyauté, avec quelle orthodoxie financière, avec quelle discipline citoyenne. Et je crois que c'est de ce côté-là qu'il faut aller chercher.
Merci Franck. Voilà. Merci beaucoup Franck. Nous sommes ici à Kinshasa avec vous, Dieudonné. Bonjour Dieudonné, quel est votre point de vue?
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Capi. Bonjour également à notre invité. Renforcer des mécanismes d'élaboration des budgets ne suffit pas. Mais il faut aussi renforcer les méthodes de gestion. Savoir comment localiser, utiliser l'épée qu'on a là. Être riche, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent. C'est savoir aussi gérer, M. Pierrot. La RDC souffre une maladie, la mégestion, causée par l'inconscience de certaines personnes qui sont incapables de gérer $500, mais ils veulent gérer $50,000. Ces personnes qui manquent l'amour de la patrie.
Voilà. Il y a la question de la gestion qui est revenue. Franck en a parlé aussi. Dieudonné en parle. Emina Mwanda, vous êtes à Bukavu. Bonjour Emine. On vous écoute. Emina, plutôt, on vous écoute, Mwanda.
Bonjour Monsieur Pierrot. Bonjour à l'invité. Bonjour à tout le monde. Et nous remercions encore la chance de nous avoir accordé la parole pour ce magazine de change citoyen. Le constat fait par plus d'une personne à RDC sur les budgets suffisants de la gestion de notre province n'est qu'une conséquence fâcheuse de ce qui est devenu la RDC en ces jours. Parce que la perturbation par les assemblées provinciales de mention par là et avec beaucoup de réalités tournées là-dessus, voulant mettre tous les gouverneurs des différentes provinces à l'obédience de l'Union sacrée, produit maintenant ses effets. Et ses effets sont au clair et tout le monde est en train de vivre le chaos. Mais il y a encore, c'est pas encore tard, nous voulons à ce que les gouvernements en place puissent tirer des conclusions et des leçons pour qu'à une nouvelle échéance électorale, placer les gens capables de booster, de pousser les pays de l'avant et non de chercher seulement les gens qui pourront au moins constituer leur bouclier et tirer le pays du bas, du haut en bas. Parce que Monsieur Pierrot, Je vous rassure que le problème de la RDC n'est pas grand. Et si chacun pourrait faire ce qu'il devrait faire là où il est, et ceux-là qui ne les connaissent pas, laissent la latitude aux gens qui vraiment maîtrisent la gestion de certaines choses. Car nous pouvons toujours prêcher ici, et si nos dirigeants ne prennent pas des choses en main, nous allons toujours.
Merci beaucoup, Mwanda. Alors, on va écouter Héritier qui est ici à Kinshasa et revenir à notre invité pour commenter ses points de vue. Héritier, bonjour, merci. Quel est votre point de vue autour de cette question?
Bonjour, Radio Capi, bonjour. Je voulais intervenir par rapport à la thématique d'aujourd'hui, M. Pierrot, pour dire vraiment. Je suis désolé pour la manière dont nos autorités sont en train de gérer les recettes, plus particulièrement la ville profonde de Kinshasa. Mais vous allez comprendre que nous, dans la ville de Kinshasa, là, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent, je vous dis. Nous avons des petits marchés là à côté, nous avons des boutiques, nous avons des pharmacies qui nous. Des services de l'État, des communes passent à tout moment, il y a des gens de quittance qui passent, mais tout cet argent-là par où? Et monsieur Pierre, je peux peut-être que vous choquer. Vous savez même que non, il y a beaucoup de recettes même là qui ça, que les policiers commencent même à percevoir cet argent-là. Et vous voulez que cet argent-là par où? Quand les policiers passent, il n'y a aucun document qui montre que non, moi je viens ici par ça. Non, il passe, et puis cet argent-là, ça arrive à la commune, ça arrive où? Mais ça, il y a. Donc, cette destination, cette orientation de cette ressource est mal orientée. Donc je ne peux pas comprendre que non, dans la ville de Kinshasa, on peut marquer même là où les stations des pompiers, des serveurs pour pompiers. Vous comprenez ça? Et c'est dans la ville de Kinshasa là où on peut manquer ça? Avec tout cet argent-là.
Alors, ce que vous avez dit, Héritier, qu'il y a beaucoup d'argent dans la ville de Kinshasa. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Héritier. Alors, Monsieur Godefroy Mwamba Mushimpaku, vous avez suivi les compatriotes. Ils reviennent sur la question de compétences, la question des mobilisations de recettes, l'orthodoxie dans la gestion. Notre ami de Kinshasa, il dit que Kinshasa a beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez l'impression que Kinshasa a beaucoup d'argent? Et je vais aussi ajouter une petite question là-dessus. Quand on parle de ces budgets qui doivent partir de la base des communes, beaucoup de gens dans le débat parlent des provinces pauvres, des provinces riches. Est-ce que vraiment la RDC a-t-elle aujourd'hui une province pauvre?
Je pense que c'est un faux débat, parce que la première richesse de la République démocratique du Congo, c'est sa population. Mm-hmm. Donc déjà 5 millions d'habitants, nous sommes capables, si nous décidons à nous-mêmes de bâtir notre pays, nous allons le bâtir sans embâche. Mm-hmm. Je pense que si je comprends très bien toute la thématique autour de laquelle, ou toutes les problématiques qui sont soulevées par les auditeurs, je sens qu'il y a, un manque de décision, il y a l'indécision. On dit les dirigeants, mais qui sont les dirigeants? Ça peut être les mêmes auditeurs là-bas, pourquoi ils ne se décident pas à gouverner le pays? Pourquoi il se limite à dire les autres gouvernent? Non, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est de considérer, et c'est ça même le changement de mentalité, c'est de considérer que la République démocratique du Congo nous appartient à tous. Mm-hmm. Moi, j'ai pris ma responsabilité de dire voici le problème du Congo, c'est dans le budget. Et le budget a une autorité budgétaire, c'est le Parlement. Les autorités qui sont au niveau de toutes les entités, c'est-à-dire les gouverneurs, sont élus. Ça veut dire que cet électeur-là qui me pose à moi la question du changement du gouverneur doit être aujourd'hui à même de dire je vais élire un député provincial, à même d'élire un gouverneur susceptible de répondre à mes préoccupations. Mmh. Et si ce n'est pas ce gouverneur-là, pourquoi pas lui? S'il estime qu'il est capable de diriger mieux que ceux qui sont là, mais qu'il se porte candidat. C'est merveilleux qu'aujourd'hui, qu'on nous donne la possibilité non seulement d'être candidat président de la République, nous avons la possibilité d'être candidat député national, nous avons la possibilité d'être candidat député provincial, nous avons la possibilité d'être conseiller municipal pour gouverner nos quartiers et nos communes. Mais entre-temps, qu'est-ce que nous voyons? C'est des gens qui font des constats et des gens défaitistes. Ça, c'est un. De deux, la corruption, la mégestion, elle vient du manque de contrôle. Mmh. Je prends le cas, aujourd'hui, tout le monde peut-être a oublié que l'UDPS a été créé sur le fond d'un contrôle parlementaire. Les 13 parlementaires sont issus du Parlement dans lequel On a fait le contrôle parlementaire à tous les niveaux du pays et il n'est resté que le niveau du Premier ministre. Le chef de l'État, à l'époque Mobutu Sese Seko, interrompra les interpellations et invitera Zondomio, qui était le président du Parlement. Et le président Zondomio, quand il s'est rendu à l'Équateur pour rencontrer le président Mobutu, il est revenu malade et il en est mort. C'est un sacrifice qu'aujourd'hui personne ne parle. Mmh. C'est vrai qu'on parle des 13 parlementaires, mais les 13 parlementaires n'ont fait que faire la conclusion des interpellations qui ont été menées au Parlement. Mais est-ce que notre Parlement d'aujourd'hui est digne d'être cet outil, d'être ce responsable de l'autorité budgétaire? J'ai dit non. Je vais vous donner trois petits exemples qui me choquent personnellement. Vous avez un député élu de Moamba, je ne cite pas son nom. Il est député, il passe ministre du budget. Il sait que la loi que j'ai lue ici lui demande à ce qu'il puisse élaborer un budget dans lequel il y a le budget de Lemba, parce qu'il habite là-bas, le budget de Limité, le budget de Ngaba, le budget de Kisenso, les gens qui l'ont élu, et même d'autres populations, parce qu'il était député national. Non, non, il fait un budget dans lequel il n'y a pas le budget de Lemba. Mais il quitte le poste de ministre du budget, le voilà vite à Lemba, il met ses petits panneaux directionnels entre la foire, deuxième porte de la foire, jusqu'à Super Lemba. Je ne sais pas, 10 ou 15 petits panneaux dans lesquels on nous dit avenue Idiba, avenue Lumene, avenue Luchacha, avenue Lukwila. Ça veut dire quoi? Ce monsieur-là qui a été élu plusieurs fois député national, parce que ce n'était pas son premier mandat, il n'est même pas capable de considérer que lui doit prendre en charge l'ensemble des problèmes de la République, pas seulement de Lemba. Et aujourd'hui, est-ce que les électeurs qui sont à Lemba, s'ils lui renouvellent encore le mandat, est-ce que ces électeurs sont conscients? Ils sont vraiment... Et là où nous disons, la faute n'est pas aux dirigeants, parce que les dirigeants nous représentent.
Oui.
C'est nous qui les envoyons. Je donne un autre cas d'une petite faiblesse dans notre Parlement, de ceux qui sont élus, parce que là, ça prend la responsabilité de nous, les citoyens qui élisons. J'ai vu les députés de Kinshasa courir vite. Monsieur le chef de l'État, demandez au chef de l'État s'il pouvait intervenir pour les érosions dans la ville de Kinshasa. Je me dis, le chef de l'État lui-même, sa dotation, son salaire est décidé par le député qui vient lui demander l'argent pour qu'on fasse les érosions de Kinshasa. Mais voilà, des gens comme ça, ils sont déjà même déjà en campagne aujourd'hui parce que je vois leurs affiches. Mais qu'est-ce que nous, comme peuple, nous avons comme responsabilité pour pouvoir dire « celui-là ne peut pas être mon député ». Je prends un autre, celui-là c'est un député du Congo central, qui a dit au chef de l'État, tu as très bien fait, tu as fait un projet de 45 territoires, je suis d'accord avec toi, mais chef de l'État, faites encore un projet de 31 villes dans lesquelles les communes doivent être intégrées. J'ai dit, mais toi tu es député national. Parce que quand le budget part du gouvernement, en fait, au Parlement, c'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire. C'est le Parlement qui décide même, voici ce que j'accorde comme fonds au chef de l'État. Mais vous qui donnez l'argent au chef de l'État, vous allez lui demander, c'est que vous êtes inconscient quelque part.
Et c'est comme si le chef de l'État allait trouver d'autres revenus qui ne marchent pas du budget qu'ils ont voté
c'est
pour
comme,
pouvoir financer.
C'est comme si le chef de l'État a l'hôtel de monnaie dans sa chambre où il va tirer les billets pour donner à ses députés-là et la ville de Kinshasa pour qu'elle arrange les érosions.
Alors, mais est-ce que le problème aujourd'hui...
Plaît, oui. Permettez-moi d'aller plus loin parce qu'on a parlé de la mentalité. Mais en ce moment-là, quand moi j'ai vu cet élément à la télé, j'ai dû appeler mon ami qui dirigeait la RTNC. Parce que cet élément est passé à la télé. Avec le commentaire d'un journaliste qui disait que le chef de l'État a accepté qu'il descende de temps en temps, il donne à la ville de Kinshasa de l'argent pour lutter contre les érosions. J'ai dit, mais quelle est la ligne éditoriale de la RTNC? N'est-ce pas l'état des droits? Si l'état des droits doit différencier le rôle du chef de l'État avec le rôle du Parlement qui est l'autorité budgétaire, les journalistes devraient ne fût-ce que faire ce que nous on appelait dans la presse écrite la note de rédaction. Donc dire, oui, le chef de l'État en tant qu'Équinois, il peut donner une partie des contributions, mais le développement de la ville de Kinshasa ne doit pas dépendre de la poche du chef de l'État, parce que le chef de l'État est un privé, est un homme qui a sa famille. Il doit dépendre du budget de la ville de Kinshasa, des budgets des communes, des budgets des quartiers, des budgets des localités et des budgets des rues. Donc ici, en somme, je suis d'accord avec tous les auditeurs qui indiquent la mauvaise gestion. Mais qui va changer cette gestion si ce n'est pas que nous? Et nous qui devons aller pour être candidat, aujourd'hui qu'on a dit conseiller municipal, ça veut dire pourquoi pas, on peut avoir des gens qui ont de bonnes idées, au lieu de rester avec des idées, ben, y aller. Mais maintenant, quelles sont les idées que nous avons? C'est pourquoi moi, en venant ici, j'ai dit voici le problème, c'est l'autorité budgétaire. Et il y a les autorités budgétaires à tous les niveaux. Gouvernement central, autorité budgétaire. Gouvernement provincial, autorité budgétaire. Et commune a aussi l'autorité budgétaire qui est le conseil communal. Alors, si ces autorités budgétaires sont capables de donner le budget et de contrôler. Et j'ai dit ici que le gouvernement central devrait faire très attention pour ne pas, en fait, le parlement national devrait faire attention pour ne pas adopter le budget sans les budgets des provinces. Parce que généralement, et le gouvernement central et les provinces, ils donnent leur session parlementaire réservée au budget au mois de septembre. Mais pendant que le gouvernement central a déjà adopté son budget, le gouvernement provincial n'a pas encore adopté son budget, donc il n'a même pas encore adopté, intégré le budget des communes. Ce qui fait que nous n'avons que le budget du gouvernement central avec des recettes de caractère national qui reviennent aux provinces et non pas les recettes provinciales au niveau de la province elle-même et au niveau des communes. C'est ce qui fait la faiblesse.
Voilà. Alors, il y a 4 auditeurs encore en ligne. Siméon Kambale qui est à Goma, docteur Michael Bolingo qui est aussi à Goma, Obed Etitia Kinshasa et maître Patrick Odia Lubumbashi. On commence avec vous, Siméon Kambale. Vous êtes à Goma. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Quel est votre point de vue, Siméon? Siméon Kambale qui est à Goma.
Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi, mais également bonjour à l'invité. Messieurs les journalistes, merci pour le grand thème et le thème que nous espérons peut changer tout. Merci aussi de nous avoir associés pour participer à ce grand thème. Messieurs les journalistes, nous ne parlons pas comprendre les programmes de nos gouverneurs. C'est au Congo où tu vois un gouverneur qui est élu, mais sa programme clair, sa programme de développement de sa province, on ne sait pas si comment il a accédé à ce trône-là. Monsieur le journaliste, nous avons l'impression que les gouverneurs de nos provinces sont cotés. Un gouverneur qui n'a même pas un programme. Un gouverneur qui ne sait même pas s'il va faire quoi pour le développement de sa province. C'est là où nous disons que ce pays est en danger. Là où nous pouvons encore une fois attaquer d'autres choses, c'est la constitution. La constitution de la RDC, nous avons l'impression que n'est pas appliquée dans son entièreté. Le système de rétrocession, messieurs les journalistes, le système de rétrocession doit effectivement changer pour donner les moyens au gouverneur de la province de développer sa province. Avec les rétrocessions, non. Même pour ramasser les simples bouteilles à court de route et pour tracer de faire des caniveaux, il faut toujours demander à Kinshasa. Mais c'est les journalistes. C'est là où nous sommes très mal partis. C'est là où notre pays n'a pas de chance. Nous avons une constitution qui a des belles mots, qui peut tout changer. Mais la constitution n'est pas appliquée. La constitution n'est pas appliquée, monsieur le journaliste.
Voilà. Alors, pour vous, Siméon, vous estimez qu'il faut abandonner la rétrocession. J'étais à Kananga pour une émission spéciale Parole aux auditeurs. Il y a un auditeur qui a évoqué cette histoire de la rétrocession qui arrive 5-6 mois après et qu'il n'y a pas de revenus aujourd'hui. Il faut appliquer la rétine à la source, qui a été aussi combattue par d'autres gouverneurs qui estimaient qu'il y avait des gouverneurs pauvres, des provinces pauvres qui ne pouvaient pas bénéficier de ces 40%, ça ne représente rien. Voilà, merci beaucoup. Docteur Michael Bolingo, vous êtes à Goma, nous sommes avec vous, bonjour, votre point de vue.
Oui, bonjour très cher Radio Cap. Je salue cette thématique d'aujourd'hui, cet élément capital. Alors, c'est réellement la ville de Kinshasa est tellement sale. Il y a beaucoup de problèmes. Si vous essayez de circuler un peu la RDC, c'est presque toutes les villes qui recourent de tels problèmes, voire même le territoire. Alors, c'est ainsi que j'étais en train de proposer au gouvernement. Et il y a eu un programme de 145 territoires. Pourquoi ne pas faire pareil pour nos villes? C'est tellement capital, moi, de ma part. Mais aussi, vous allez constater avec moi que la ville de Kinshasa, avec d'autres villes et d'autres provinces, ne produisent pas beaucoup. C'est surtout, il y a certaines provinces vraiment qui produisent assez pour notre province, pour notre pays plutôt. Alors, il y a lieu qu'on puisse respecter quand même les textes en retenant les 40% des budgets de chaque province. Comme ça, vous allez constater avec nous que les provinces seront tellement développées à telle enseigne que même si nous ne dépendrons plus au niveau central.
Alors, est-ce que la question de la retenue, à la source, oui, docteur Michael Bolingo, merci beaucoup. On va voir avec notre invité sur cette question, comment résoudre cette question exactement de retenue à la source. Alors, nous retournons ici à Kinshasa avec Obed qui est avec nous. Obed, bonjour, on vous écoute.
Oui, bonjour Monsieur Pierrot et la Meji, bonjour à tous les auteurs de la radio Capi. Et je tiens d'abord à signaler que dans un pays sérieux et responsable, des choses que l'on assiste vraiment dans nos administrations, c'est vraiment très déplorable et juste une aberration. Parce que si vous voyez même la mobilisation des recettes par province, par des taxes et impôts, donc du coup, vous avez l'impression qu'on est dans la jungle. On est dans la jungle. Donc la mobilisation des recettes pose un sérieux problème. On ne sait pas bien canaliser justement les finances ou les contributions des contribuables et à ce que ça puisse justement atteindre l'objectif, atteindre la destination. C'est très compliqué et des histoires comme ça ne vont pas justement nous permettre à ce qu'on puisse concrétiser un certain nombre d'obligations, un certain nombre justement des préalables, voir les pays développés. Et justement, je vis les points qui sont soulevés, mais c'est bien évidemment que ça relève de la compétence de l'État. Alors, mais quand l'État n'y arrive pas à concrétiser, quand l'État n'y arrive pas à matérialiser, à lutter contre tout ce qui est mot dans notre pays, donc c'est très déplorable. Vous allez voir qu'à Kinshasa,
alors si on vous suit très bien, Obed, vous êtes revenu.
Mais
Obed, vous êtes revenu sur la question de la mobilisation des recettes, mais aussi de l'air canalisation. On va écouter Maître Patrick Odjeki et Talumbashi revenir dans ce studio pour que Monsieur Mwamba puisse réagir. Maître Patrick Odia, vous êtes Talumbashi. Bonjour. On vous écoute sur cette question.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la Radio de la Paix. Pierrot, récemment nous avons participé à la conférence organisée par l'Université de Lubumbashi, la gouvernance des provinces. Beaucoup de professeurs, directrices des cabinets, premier vice-président de l'Assemblée, beaucoup y ont pris part. Et qu'est-ce que nous avons relevé dans cette conférence? Nous sommes rendus compte qu'au-delà de tout ce que nous pouvons faire ou imaginer, d'abord la première barrière légale, ou la première barrière au développement à la base, c'est d'abord les tests légaux. Dans l'arsenal juridique, il existe des contradictions qui empêchent ou qui empêcheraient les développements à la base. Ici n'est pas peut-être les liens de pouvoir amener vu les temps. Mais retenons qu'à la longue, il faudrait penser à la révision des lois. J'allais dire à la révision de la Constitution et également à la modification de certaines dispositions légales. Peut-être prochainement nous en parlerons. D2, est-ce que les renforcements des capacités ou des mécanismes dans l'élaboration des budgets, cet élément est-il important? Oui. Mais est-il l'unique? J'ai dit non. À cela, il faudrait également ajouter la participation communautaire. Donc, le développement à la base n'est pas l'émanation tout simplement des dirigeants ou des animateurs des institutions. Mais cela relève également de la participation communautaire dans les paiements des taxes, impôts, contributions, environnement, beaucoup d'autres choses également. Et Dédé, nous avons même proposé qu'il y ait des parquets spécialisés, c'est-à-dire des parquets financiers, comme on le fait ailleurs d'ailleurs, où on peut traquer les animateurs qui détournent à leur guise. Aujourd'hui, ils sont arrêtés et demain, ils sont libérés. Tout ceci freine le développement à la base. Mais surtout, nous devons renforcer les mesures pour être dirigeants au niveau...
Nous devons renforcer les mesures pour devenir bourgmestre, pour devenir maire de la ville, pour devenir gouverneur, et que sais-je encore.
Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, Maître Patrick Odia. Parce qu'on ne saura pas aller plus loin, Maître Patrick Odia, il faut renforcer les mesures. Alors, nous revenons à vous, Président Mwamba. Est-ce que c'est une question de compétences? Parce que comment on peut arriver qu'on aille au Parlement, député, et qu'on puisse voter les budgets sans intégrer ça? On le fait depuis des années. Est-ce que c'est un problème d'ignorance, compétence, un problème d'organisation? Le problème se trouve à quel niveau exactement? Et vous l'avez déjà évoqué d'ailleurs, on a déjà voté les budgets nationaux et après les provinces une à une tiennent leur plénière pour voter les budgets après, alors que les budgets nationaux étaient déjà votés. Alors, c'est quoi exactement le problème, se trouve à quel niveau?
D'abord, la paresse intellectuelle. Les gens viennent au gouvernement parce que il faut chanter les djalélo et puis c'est fini. Et quand ils arrivent au gouvernement, ils oublient quel est leur rôle. Ils oublient même les textes qui organisent. L'élaboration du budget, le texte que je viens de parler, c'est une loi des finances qui lance un principe qui est l'unicité du budget. Et l'unicité du budget, il est tout à fait clair. Donc, c'est d'abord une paresse intellectuelle de ceux qui viennent pour nous diriger. Je peux parler de certains qui sont incompétents. Au-delà de ça, il y a aussi la paresse dans nos administrations. Il y a des gens qui, toutes les années, élaborent de la même manière le budget. Et il va vous dire, nous, nous faisons toujours comme ça. Ça, c'est le problème de nous, les démis intellectuels. Ça veut dire, nous avons appris le français, nous pensons que nous connaissons tout. Et pourtant, chaque fois, nous devons revoir nos connaissances pour pouvoir améliorer par rapport à l'avancement de nos textes. Je voudrais, en répondant à la question sur la retenue de la source, relativiser. Notre dernier auditeur, je suis d'accord avec lui quand il dit la participation communautaire. Oui, la participation communautaire ne demande pas qu'on révise la Constitution ou la loi, parce que l'article 174 de la Constitution émet le principe selon lequel il faudrait que tout habitant du Congo participe aux charges publiques. Et l'impôt minimum personnel a été instauré par une loi. Donc, c'est pas un problème de texte, plutôt par une ordonnance. C'est l'ordonnance loi numéro 13-001 du 23 février 2013. En son article 3, instaure 4 impôts provinciaux et locaux. 1. Impôt minimum personnel. C'est ça la contribution communautaire. 2. L'impôt sur le revenu locatif. IRL. 3. L'impôt sur les véhicules automoteurs. Kinshasa peut régorger même 5 millions de véhicules. Et s'il donne seulement $50, mais vous verrez déjà, nous sommes à 50 millions ou à 500 millions de dollars. Vous avez l'impôt sur les superficies bâties et non bâties. Voilà. Ça, ce sont les impôts qui sont reconnus à la province. Mais les taxes dont on parle de la rétrocession ne constituent que les 40% de l'ensemble des taxes de l'impôt au niveau national. Mais par contre, les 40% qui devraient rester seront compensés. Si aujourd'hui le gouvernement a du mal à lâcher les 40%, parce que ça devient l'unique source de financement des provinces. Les gouverneurs de provinces ont oublié que leur population est à même de pouvoir contribuer d'abord la première pour son développement. Parce que les gens pensent que l'argent pour développer les provinces doit venir de Kinshasa. Non. L'argent pour développer, par exemple, la province du Haut-Lomami, que je connais très bien, qui est une province productrice. Dans la province du Haut-Lomami, par exemple, parce que j'ai pris beaucoup d'exemples de Kinshasa, dans la province du Haut-Lomami, par exemple, vous allez trouver des grands territoires, comme le territoire de Malimankulu, le territoire de Bukama, des très grands territoires. Vous allez rencontrer sont des territoires de à peu près 800 000 habitants. Avec 800 000 habitants, nous avons fait le calcul ici. Le territoire de Malemba peut lever une taxe de $5 et avoir 2 500 000 qu'il n'a jamais eu depuis qu'il existe en tant que territoire.
Par la rétrocession.
Territoire de Malemba, par exemple. En ce moment-là, quand vous prenez toute la province du Haut-Lomami, qui compte 5 territoires, si nous faisons la moyenne d'1 million, de dollars par territoire, par la contribution d'impôt minimum personnel, mais le territoire déjà du Haut-Lomami ne peut pas se dire pauvre. La même chose que je prends le Haut-Lomami parce qu'il n'y a pas une production minière. Kinshasa, par exemple, Kinshasa a très peu de mines. Il y a le marbre, il y a les grès, il y a ceci, il y a cela, mais les recettes de Kinshasa ne peuvent pas venir de l'activité minière. Mais par contre, Kinshasa... Bon, les gens oublient même ce que ça veut dire Kinshasa. Kinshasa, ça veut dire le lieu où on vend le sel. C'est un lien de négoce. Marcher dans Kinshasa ici, Kinshasa doit d'abord se réconcilier avec elle-même. Parce qu'elle est, de nature commerciale. Kinshasa a commencé par un point sur lequel les gens venaient avec le sel et les gens échangeaient le sel au manioc, au maïs, au poisson. Mtsasa, ça veut dire sel en Kikongo. Ki, ça veut dire lieu. Mm-hmm. Mais est-ce que nous-mêmes Kinois, nous savons que Kinshasa, ça veut dire le lieu de vente de sel. Et vous voyez dans la ville de Kinshasa, malheureusement, je regrettais que le gouverneur Ngobila, dans son état des lieux de la ville de Kinshasa, avait même déjà affirmé qu'à Kinshasa, nous avons 246 actes générateurs de recettes. Vous voyez comment déjà on tue l'économie. Avec 246 actes générateurs de recettes, comment voulez-vous que ces commerçants de Kinshasa, qui doivent financer le développement de Kinshasa, soient capables de coordonner leur intervention?
Voilà.
Permettez-moi de terminer
rapidement, parce qu'il y a encore des auditeurs, on va revenir à vous pour conclure, ça, oui. Les temps filent vite rapidement.
Laissez-moi sur le commerce pour dire
allez-y rapidement,
qu'il faut que nous, les démises intellectuelles qui avons fait les universités, nous puissions reconsidérer que ce n'est pas nous qui sommes capables de construire. Parce que regardez toutes ces mamans avec des braises tout au long de la rue, avec les pains en train de vendre tout au long de la rue, tous ces jeunes gens avec des cabines, vous n'allez pas trouver un licencié en commerce, par exemple. Vous ne trouverez pas un licencié en commerce. Généralement, c'est des gens qui ont été formés sur l'État, qui aujourd'hui maîtrisent le commerce et font vivre Kinshasa. Mais demain, pourquoi notre université? Si peut-être demain, moi, je suis député national ou quoi, mais je vais plaider pour que l'Institut du commerce de Kinshasa puisse décerner de brevets de commerce à ces gens-là qui ont la connaissance du commerce mais qui n'ont pas le langage commercial. Voilà.
Alors, est-ce qu'on peut permettre, je ne sais pas, qu'on n'aura peut-être pas la possibilité de faire passer tous ceux qui sont encore là. On va voir avec la technique d'abord deux personnes rapidement, hein, peut-être 40 secondes à Amos Bissimo qui est à Bukavu et Jérémy Albumbashi. Rapidement avec Amos, bonjour Amos, on vous écoute.
Je tiens de prime abord à saluer tous les auditrices et auditeurs de la radio Okapi mais aussi l'invité au studio. Ce qui est vrai, la ville province de Kinshasa, comme beaucoup d'autres provinces de la République démocratique du Congo, connaissent un problème très sérieux de mobilisation des recettes afin d'avoir un budget conséquent pour pouvoir booster leur développement. À mon avis, il y a deux causes. Un, la corruption et le détournement qui caractérisent les agents des services d'assiette qui profitent de l'impunité qui bat son plein jusque-là au pays. Mais aussi, nous pouvons signaler que ces agents ne cessent de dire que beaucoup ne sont pas payés par l'État congolais. Et le fait de ces agents qui sont payés, ils disent qu'ils sont très très mal payés. Et nous tous, nous les connaissons.
Voilà, mais parce qu'il faut permettre aussi à d'autres compatriotes, Amos, il y a d'abord Jérémy qui est là aussi, peut-être 30 secondes à Jérémy, hein. Il y a aussi Peter, il y a Alidor, tout le monde ne pourra peut-être pas aller jusqu'au bout. On va écouter rapidement Jérémy, peut-être en 30 secondes, et puis avant que l'invité ne puisse conclure cet échange. Jérémy, on vous écoute.
Alors bonjour Monsieur Pierrot, bonjour également à l'invité. Hormis la rétrocession qui est déjà en vigueur, il faut à tout prix pouvoir doter de toutes les municipalités d'un pouvoir considérable pour pouvoir se développer à l'interne. Vous savez que lorsque la province veut évoluer, elle doit tenir compte également de toutes les entités qui l'environnent. Là je vois les communes, comment elles doivent évoluer. Il faut leur donner de moyens conséquents. Ça veut dire donner le pouvoir.
Alors, Jérémy, vous prenez sur le fait qu'il faut donner de moyens aux communes, hein, mais tout à l'heure, notre invité disait que c'est la population elle-même avec l'impôt minimum personnel. C'est déjà autant de moyens qu'on peut donner à une commune. Peter, vous êtes à Kinshasa. En un mot aussi, hein, votre point de vue, avec Maître Alidor aussi, et puis on va permettre à l'invité de pouvoir chuter. On vous écoute, Peter, rapidement.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à notre invité ainsi qu'à tous les auteurs de la radio Capi. Monsieur le journaliste, par rapport au sujet du jour, le développement des provinces, de la République du Congo en général, et de la ville-province de Kinshasa, dépend d'une part des manques de leadership, des dirigeants, des provinciaux que nous avons, et d'autre part, des manques de la capacité mobilisatrice des ressources
de revenus
dont les provinces sont bénéficiaires partant de la loi sur la libre administration des provinces.
Merci beaucoup, Peter. Merci beaucoup, Peter. Vous l'avez dit, c'est un problème de compétences. Maître Alidor, dommage qu'on ne pourra pas vous avoir parce que là, on est bousculé par les temps. On revient à vous, Monsieur Godefroy, Mwamba Mushimpaku. Vous avez suivi les uns et les autres. Alors, en conclusion, les schémas que vous proposez, on est à la veille des échéances électorales. On aura un nouveau Parlement si jamais on a les élections d'ici le mois de décembre. Quelle va être la ligne de conduite pour arriver vraiment à respecter, à avoir un budget de l'État comme vous le proposez?
La première chose, c'est que d'abord, les citoyens doivent comprendre que la construction de la République démocratique du Congo ne peut pas venir du ciel. Mais ça doit venir des fils et des filles de la République démocratique du Congo qui, par leur travail et leur contribution à l'État, arrivent à développer le pays. Première chose. Deuxième chose, c'est encore à la population de doter les institutions des personnes susceptibles d'être capables de bien gouverner. Parce que ici, les gens disent, les gens ne gouvernent pas bien. Mais pourquoi toi, en tant que citoyen congolais, tu ne te sens pas interpellé pour dire, toi tu es suffisamment moral, tu ne vas pas accepter la corruption, et que ça soit toi qui devienne candidat. Parce que nous sommes au moment où la République est en train de renouveler ses animateurs. On parle de la corruption, on parle de la mégestion, mais personne ne s'engage à être celui qui commence le changement. C'est pourquoi moi j'ai dit, moi je m'engage à bien gouverner la ville de Kinshasa si demain on m'accorde le suffrage. Parce que je vais le demander. Et là, qu'est-ce que je peux faire dans la ville de Kinshasa? Parce qu'il ne faut pas venir sans projet. Les gens viennent sans projet, sans programme, et dès qu'ils sont élus, bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent le nombre de femmes, ils achètent des maisons, comme si c'était ça pour la raison pour laquelle on l'a voté. C'est comme ça que vous allez voir la population, ils disent, nous avons voté tel, allez, kakabi, so kakaboy. Et tout le monde a que l'ogoté à Matissakaba vitre. Mais oui, parce que quand il est venu, il vous a pas dit qu'est-ce qu'il fera. Même si vous devez l'interpeller, vous l'interpellerez sur quoi? C'est pourquoi moi j'ai dit, le développement de Kinshasa doit partir de la base. La lutte contre l'insalubrité, la lutte contre l'insécurité, le développement de nos commerçants doit être fait par l'encadrement. La première chose que nous pouvons faire, c'est de dire, nous avons 125 000 rues dans la ville de Kinshasa, ils doivent être dotés des chefs de rue avec un salaire qui vient de la rue. Parce qu'il y a l'impôt minimum personnel, il y a les quatre impôts que j'ai cités pour la ville de Kinshasa. Il y a des choses beaucoup plus importantes dont nous pouvons parler, l'enterrement à Kinshasa. Je ne comprends pas au nom de quoi un mètre carré ou deux mètres carrés d'un cimetière, d'une terre où on a construit une tombe peut coûter jusqu'à $8,000. Les superprofits qu'on réalise à travers ça vont où? Mais pourquoi l'État congolais ne sait pas suivre ça pour dire, il ne faudrait pas asphyxier notre population. Nous avions, dans notre plan de développement de la ville de Kinshasa, nous avions prévu la construction des centres de développement de Kinshasa. Dans les centres de développement de Kinshasa, qui vont correspondre au quartier, nous allons y mettre l'encadrement de la jeunesse. Parce qu'il ne faut pas encadrer la jeunesse que par la police. Mais avec nos centres d'encadrement, nos centres de développement, ça deviendra des foyers sociaux. Où le soir, nous formons les gens. Les gens qui n'ont plus l'âge d'aller à l'école normale, nous les formons parce que c'est avec ces gens-là que nous devons développer le pays. C'est eux qui font le commerce, c'est eux qui travaillent, qui produisent. Nous devons les encadrer pour que leur production soit davantage.
Ça dit que le même modèle peut être dupliqué sur toute la République, les provinces, parce que ce sont les mêmes problèmes que les provinces connaissent.
Je vais insister sur Kinshasa pour le centre de développement, parce que pour moi, dans ce centre-là, il doit y avoir les sports, tous les sports. Ça doit correspondre à ce que nous vivions dans la jeunesse. Tu viens de l'école, tu passes à la maison juste pour manger, et le reste des temps, tu es sur un terrain de basket, tu es sur un terrain de foot, et moi, comme j'ai fait la boxe, je vais sur le ring. Je me bats avec des collègues, je m'exerce, et demain, nous allons avoir des grands footballeurs, des grands boxeurs, des grands... Et ça, dans la ville de Kinshasa, par exemple, nous prévoyons au moins un quartier avec un espace acheté par l'État, avec la contribution de la population, pour que ça soit un foyer social, pour que ça soit un centre de développement,
et parce qu'il y ait un lieu
pour, voilà, pour pleurer les morts.
On n'a que 10 secondes pour les députés nationaux, les futurs qui pourront voter le prochain budget, et même le budget tout à l'heure, ça sera au mois de septembre. Et là, c'est juste un mot.
J'ai dit que c'est avant même de se présenter devant les électeurs, il faut être capable d'avoir un projet.
Merci beaucoup.
Et les électeurs aussi doivent savoir qui choisir. Yebela, comme on dit en lingala.
Merci beaucoup, Monsieur Godefroy Mwamba Mushimpaku, premier vice-président national de l'ANAFEC, l'Alliance nationaliste des fédéralistes kinguistes parti de l'Union sacrée. Merci à Jean-Noël Mokondo qui a mis en ordre ce magazine que vous allez retrouver sur www.radiocapi.net. Je vous retrouve demain pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Au revoir.